Dieu, encore une fois, c'est sur ta grâce seule que nous comptons pour terminer cette journée. Nous voudrions entendre ta voix. Nous voudrions reconnaître vraiment tes pensées d'amour qui veulent encore se manifester et pénétrer nos cœurs. Nous désirons vraiment être les uns et les autres remplis de toute cette plénitude qui est en toi. Nous ne voudrions pas passer à côté de la bénédiction. Alors, ô notre Dieu, nous ouvrons tout grand nos cœurs et nous te disons déjà merci de ce qu'en Jésus, tu nous as exaucés par la puissance de ton esprit. Amen. Eh bien, nous sommes déjà arrivés à cette soirée du 14 mars 87 et nous poursuivons notre thème sur ce message trinitaire. Je veux croire que vous l'avez discerné dans ce quatrième chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Cet après-midi, nous sommes arrivés donc à la fin de la partie doctrinale de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et je pense que, comme moi, vous avez remarqué que si la première partie de la lettre a débuté par un hymne de louange et d'action de grâce, c'est aussi une louange à Dieu qui achevait cette partie. La fin du chapitre 3 est une louange à Dieu. À Dieu soit la gloire. Dans l'Église, avec un grand « et », et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours, ou pour toutes les générations. Et nous avons souligné que c'était aussi pour notre génération. Quelles qu'en soient les difficultés. Et nous avons eu l'occasion de constater que l'amour que le Christ nous a témoigné en se livrant pour nous est un amour identique à celui de son Père. L'amour du Christ est identique à l'amour du Père et nous dirons aussi identique à l'amour du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Lisons-nous dans le chapitre 5 des Romains. Donc, la Trinité tout entière, nous l'avons vu, est en activité pour accomplir notre salut. Dieu est la source de notre salut, Dieu le Père. Le Fils est le canal qui nous a apporté le salut. Et le Saint-Esprit rend présent ce salut dans nos vies. Et le désir que j'avais tout à l'heure dans la prière, c'est que vous vous souveniez des dimensions de l'amour du Christ. Et voyez-vous, il s'agit moins de comprendre, de connaître, que de se savoir aimer. Parce que cet amour, il est incompréhensible. Alors nous cherchons à le connaître, bien sûr. Mais ce qui compte avant tout, même si vous ne comprenez pas cet amour, si cela vous dépasse, il faut que vous sachiez une chose, vous êtes aimé. C'est ça qui est important de soi. Que vous vous sachiez aimé. il y a tant de gens mal aimés. Et vous voudriez être aimé, mais de qui et par qui? Être aimé par le Seigneur. Être aimé par Dieu lui-même, qui est amour. C'est ça le véritable amour. Alors, prenez conscience, ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est le Seigneur qui vous le transmet, qu'il vous aime. Le Seigneur vous aime. Soyez-en bien conscients. Et souvenez-vous des dimensions de cet amour. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. C'est les dimensions de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem cubique dont il est parlé dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, et dont il est dit que la hauteur, la largeur et la longueur, les mesures de la Jérusalem, étaient égales. C'est quelque chose de merveilleux. La largeur, la longueur, la hauteur, donc aussi la profondeur, sont des mesures égales. Voilà l'amour de Dieu pour vous. Et je voudrais rappeler aussi ce qu'un de mes vieux amis, et qui est aussi devenu dans ces dernières années l'ami de ma femme bien-aimée, le pasteur Albert Nicolle, quelques-uns connaissent ses fils, Jules Marcel, qui est directeur de l'Institut biblique de Nogent à Paris, et Roger Nicolle, qui vient assez souvent aussi au Québec. Eh bien, notre vieil ami Albert Nicolle, qui est parti à 94 ans auprès du Seigneur, aimait à parler de la fin de ce chapitre 3 des Éphésiens en disant: c'est le chapitre des trois impossibilités. Et c'est vraiment le Dieu de l'impossible que nous trouvons à la fin de ce chapitre. Vous les connaissez, vous les avez vus, ces trois impossibilités. Il me semble entendre encore, ma femme était avec moi en Suisse, et ce vieux pasteur qui était aveugle depuis l'âge de 35 ans, et qui arrivait à 94 ans, mais qui connaissait au fond sa Bible par cœur. Je l'ai vu une fois se lever dans une grande tente et puis il lisait la Bible. Elle était à l'envers. Elle était absolument à l'envers. Hein. Mais il lisait comme si c'était... Il ne montrait pas qu'il était aveugle, puis il ne se plaignait pas. Puis après, il nous prenait la main, là. Ce cher ami. C'est des gens qui restent vivants pour nous, hein. Pour Dieu, tous sont vivants et sont entrés dans la maison, mais ils attendent le moment de la résurrection. Ah, ces amis bien-aimés qui ont passé avec nous au travers de nos propres épreuves et qui nous ont fait du bien. Bien oui, c'était les trois impossibilités. D'abord, il disait, on ne peut pas être enraciné et fondé. Ça, c'est une impossibilité. Eh bien, c'est pourtant vrai, qu'il disait. Ça, c'est la première impossibilité. Puis ensuite, comprendre ce qui est incompréhensible. L'amour de Dieu. Voilà encore une impossibilité. Hein. Et puis, la puissance de Dieu, elle peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous aimons, de tout ce que nous pouvons désirer, de tout ce que nous pouvons imaginer. Les grandes impossibilités. Bien, j'aime à rappeler ces paroles de notre ami Albert Nicolle, qui est auprès du Seigneur, mais dont les fils continuent l'œuvre de Dieu sur la terre. Alors, nous arrivons maintenant à notre chapitre 4, et qui commence alors les exhortations. Et vous l'avez lu, je pense qu'il n'y a pas de grandes difficultés et que nous n'avons pas besoin de nous arrêter longuement sur ce que l'apôtre dit. Ça, vraiment, on reconnaît l'apôtre Paul. Selon son habitude, la dernière partie de ses lettres est consacré à l'exhortation. Il a donné la doctrine, mais maintenant, en vertu de cette doctrine, puisque ces choses sont certaines et véritables, voilà ce que doit être votre vie. Il y a une base, et puis maintenant, il y a la pratique. Alors, il nous dit, je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Vous avez remarqué au chapitre 3, il s'est appelé déjà le prisonnier. Hein? À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de qui? Du Christ. Au lieu de dire, vous savez, je suis prisonnier, j'ai des chaînes, etc. Il dit non, si j'y suis à cause du Christ. Je suis prisonnier du Christ. Il vaut mieux être prisonnier du Christ que prisonnier de Satan. Je suis le prisonnier du Christ. J'aime cette parole. Moi, Paul, prisonnier du Christ. Est-ce que vous êtes prisonnier du Christ? C'est ça la liberté. C'est ça être vraiment libre. On peut être en prison et être libre. Et on peut être libre et être prisonnier. Prisonnier de nos habitudes, prisonnier de notre amertume, prisonnier d'une foule de choses. Être libre. Voyez-vous, Joseph, lui aussi, il avait compris qu'il était prisonnier de Dieu quand il était en Égypte. Et il l'a tellement bien compris qu'il a pu pardonner à ses frères. C'est beau, hein? Il dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Vous m'avez vendu, c'est vrai, hein? Mais ce n'est pas vous, c'est Dieu. Et si vous avez fait cela, c'est encore parce que Dieu voulait vous sauver. Et il m'envoyait avant vous pour préparer le chemin. Mais il avait dû souffrir. Et il avait été 2 ans en prison. Et celui à qui il avait fait du bien, les chansons du Pharaon, il l'avait oublié. Il aurait pu avoir de l'amertume. C'était une préparation. Voyez-vous, quand Dieu appelle quelqu'un, il faut qu'il s'attende à être façonné, à être préparé. Alors laissez-vous faire. Et dites-vous bien que Dieu est un Dieu de mesure et qu'il n'en verra jamais au-delà de ce que vous pouvez supporter. Être prisonnier du Christ. Alors, il souligne encore qu'il est vraiment prisonnier dans le Seigneur. Oh, être prisonnier dans le Seigneur. Je reste dans le Seigneur même si je suis en prison. Même si les circonstances sont difficiles, je reste dans le Seigneur. Est-ce que nous vivons dans le Seigneur? Où que nous soyons et quelles que soient nos circonstances, c'est comme ça qu'on médite la parole, qu'on ouvre vraiment en oraison. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Alors, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Maintenant, vous savez quelle est la vocation qui vous a été adressée. Nous l'avons lu dans le premier chapitre. Et quand est-ce que cette vocation nous a été adressée? Quand est-ce que Dieu a conçu ce plan pour nous? Dès avant la fondation du monde. Et sa vocation, son appel, nous étions choisis pour être saints et irréprochables. Voilà ce qui était dans la pensée de Dieu. Voilà ce que vous savez de la pensée de Dieu pour vous. Quand il vous a appelé, quand il vous a élu avant la fondation du monde, sa volonté, le bon plaisir de sa volonté, c'était que vous soyez saints et irréprochables. Alors, souvenez-vous maintenant de cette pensée. Et si c'est cela que Dieu voulait, il le fera. Il accomplira sa volonté en vous, si vous vous laissez faire, parce que Dieu ne nous viole pas. Il désire notre consentement. Vous voyez l'ange et qui propose ce que Dieu adresse à Marie et qui attend la réponse de Marie. Marie a certaines objections. Elle dit, mais comment ces choses peuvent-elles se faire puisque je ne connais pas d'homme? Donc, il n'y avait pas des relations sexuelles prénuptiales. Je ne connais pas d'homme. Elle était fiancée, mais elle était vierge. Elle arriverait au mariage en étant vierge. Eh bien, l'ange attend, et finalement, Marie se courbe quand elle entend l'ange qui dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible. Est-ce que vous croyez ça? C'est l'une des grandes leçons de Marie. Et si ma femme a fait de la réclame un peu pour le livre là que j'ai écrit, les leçons de Marie, c'est pas pour qu'on s'en débarrasse, comprenez-vous? Mais c'est pour que nos amis catholiques puissent se convaincre que nous aimons Marie. Parce qu'ils se font de fausses idées, ils croient toujours que nous, parce qu'on est soi-disant protestants, ça ne veut rien dire ça, eh bien, ou évangéliques, que nous n'aimons pas Marie. Mais Marie, c'est la mère de notre Seigneur. Et nous bénissons Dieu d'avoir suscité une telle femme à qui une grâce tout à fait particulière a été faite. Et alors, beaucoup de gens qui ont lu ces leçons de Marie, eh bien, m'ont dit après, maintenant, nous avons appris vraiment à la connaître et à l'aimer comme jamais encore auparavant. Et ça aide dans nos relations avec nos amis catholiques. Alors, que vous puissiez vous sentir libre, si vous le désirez, d'avoir ces livres. Ce n'est pas une réclame que nous faisons pour nous-mêmes. Du reste, voyez-vous, le cardinal Sunens l'a reçu à Malines-Bruxelles, il l'a donné à analyser à l'université de Louvain, en Belgique, ça a été envoyé à Rome aussi, à Paul VI de son temps, et puis à tous les évêques de cette province. C'est quelque chose qui est bien connu. Du reste, c'est à cause de ce livre qu'on m'a demandé un jour de prêcher sur Marie au stade olympique, au congrès charismatique de 1979. Alors il y en a qui disent, comment est-ce qu'on a pu vous demander cela? Bien parce qu'ils ont vu que, au fond, je n'étais pas contre la mère de notre Seigneur. Voilà. Alors ça nous donne des occasions d'apporter le message, même dans un grand auditoire, parce que je n'ai pas payé le stade olympique. Je n'aurais pas le moyen. Puis je n'ai pas fait de la propagande pour réunir le monde qui y était. Ils y sont venus. Alors vous voyez, Dieu nous donne des moyens de porter. Et on n'a pas besoin de faire des appels d'argent. On parle toujours d'argent maintenant, dans nos milieux. On a crié sur le catholicisme, qui avait des messes à toutes sortes de prix. Et puis maintenant, dans nos milieux évangéliques, on ne fait que parler d'argent. C'est quand même bizarre. On se répand drôlement. Alors on devrait commencer par balayer devant nos maisons, devant nos demeures, au lieu de critiquer les autres. Et puis tout à coup, on fait comme les autres. On a crié sur toutes les images qu'il y avait dans l'Église catholique. Puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? On montre le Seigneur en image. Je n'ai rien contre ça. Je ne vous le dis pas. Je ne dis pas quelque chose contre ça. Mais nous avons toujours été négatifs pour les autres qui ont fait exactement les mêmes choses avec le flanellographe, le storiographe, tout ce que vous voulez. Nous employons des images, on représente Jésus qu'on a créé sur l'église de Rome. Mais mes amis, c'est le moment de rentrer un peu en nous-mêmes et de voir que nous étions des inconscients. D'abord, moi je loue Dieu et qu'il y ait eu des hommes au temps où les gens étaient illettrés et qui ont fait des images pour représenter, au fond, toute la Bible. Il y a dans certaines églises, n'est-ce pas, des tableaux, il y a des œuvres d'art, et je pense à la Sainte-Chapelle à Paris. Quand on commence de voir les vitraux de la Sainte-Chapelle à Paris, on commence, disons, là, c'est par la Genèse, puis on continue, on fait tout le tour, puis on arrive à l'Apocalypse de l'autre côté. Hein. Les gens qui ne savaient pas lire, eh bien, apprennent par ces images quelque chose de l'Écriture sainte. Alors, ne soyons pas négatifs, ne jugeons pas, mais bénissons Dieu de ce qu'il ne s'est pas laissé son témoignage au travers des âges. Et alors, ce Paul nous demande donc de marcher maintenant d'une manière digne de cette vocation, parce que Il est question non pas seulement de connaître des vérités dans notre cœur, d'avoir des dogmes solides, mais il est question que ça influence notre marche. Et alors, quel est le caractère d'une marche vraiment chrétienne? Il n'y a pas une marche pour les catholiques, une marche pour les protestants et une marche pour les évangéliques. Hein. Il n'y a pas un chemin pour les catholiques, un chemin pour les protestants et puis un chemin pour les évangéliques. Il y a un seul chemin. Et la largeur du chemin, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Il est le chemin. Il est le chemin. Alors, marchez dans ce chemin. Et vous rencontrerez peut-être des frères et des sœurs. Mais pour que nous puissions vraiment marcher ensemble, qu'est-ce qui doit nous caractériser? C'est le verset 2. L'humilité et la douceur. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Qui est-ce qui possédait vraiment la vraie humilité? Qui est-ce qui était doux et humble de cœur? Et qui disait, venez à moi, à vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. La douceur et l'humilité, eh bien, c'était ce qui caractérisait notre Seigneur. Alors, puisque nous sommes devenus les enfants d'adoption du Père Céleste, nous devons ressembler à son Fils unique. La douceur et l'humilité. Et puis quoi encore? La patience. Nous sommes terriblement impatients. Vous êtes convertis, vous avez saisi la grâce de Dieu, puis vous voudriez tout de suite que les autres dans votre entourage comprennent de la même manière. Puis vous êtes impatients. Et puis vous leur faites des grimaces de damnés. Parce que ils ne vous suivent pas tout de suite. Hein. Vous leur dites, oui, ben, si tu ne te convertis pas comme moi, hein, ben voilà ce que tu seras. Puis vous graissez déjà les dents devant eux. Vous leur faites toutes sortes de grimaces. C'est pas très beau. Et ça ne les encourage pas à se convertir. Loin de là. Vous n'avez jamais été si grimaçant que depuis que vous évangélisez. Alors, je vous fâche. C'est quand même lamentable. Il nous faut comprendre que nous avons souvent été des obstacles à la conversion de nos plus proches, parce que nous n'avons pas eu l'attitude qui devait nous caractériser. D'abord, la douceur. On y va à coup de marteau. Et puis, on est dur. Puis on est impatient. Puis on ne se souvient pas que Dieu a une drôle de patience, qu'il en a encore drôlement avec nous. On pense toujours à ce que les autres doivent comprendre, mais nous, qu'est-ce que je dois encore comprendre? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous voulez que je la ferme? Mais non, mais même si je la ferme, la Bible continue. Hein. Eh bien, nous devons nous supporter les uns les autres. Moi, je supporte ma femme me supporte. Il y a tellement longtemps que je supporte. C'est ça le support? Vous supportez avec amour. Vous voyez que chaque mort a sa signification. Vous parlez du support. Mais est-ce que vous supportez avec amour? Alors, vraiment, moi je ne suis pas capable de ça. Mais Dieu peut verser son amour dans mon cœur. Et comment le verse-t-il? Par qui le verse-t-il? Par son esprit. Donc l'amour du Père, qui a été manifesté dans le don de son Fils, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais il nous pénètre par le Saint-Esprit. Donc vous voyez, c'est vraiment un message trinitaire. Nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. Vous rendez-vous compte que Jésus a supporté ses disciples? Et c'était pas drôle de vivre avec ses disciples. Hein. Ils discutaient toujours pour savoir lequel serait le plus grand, lequel serait favorisé, lequel serait à sa droite, lequel serait à sa gauche. Et ils étaient assez rudes, assez grossiers. Ils se mettaient à table sans faire le service. Et c'est le Seigneur qui devait se lever pour faire le service. Puis personne ne lui disait, non, Seigneur, tu ne vas pas faire ça. L'apôtre Pierre, il dit, tu ne vas pas me laver les pieds. Mais il ne dit pas, je prendrai le baquet et je continuerai de laver les pieds. Non,
tu ne me laveras pas les pieds. Mais il n'a pas pris le service. Hein. C'est cela qui nous caractérise. Alors, essayons d'apprendre. Le Seigneur a supporté ses disciples. Et il y a eu des moments où vraiment, il n'en pouvait presque plus. Et il dit, « Ô génération incrédule et perverse !» À qui il dit ça? À ses disciples. Il dit pas ça au monde. « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Vous savez, c'est pas drôle, hein. Il venait du ciel, de ce temple où tout disait gloire. Il naît dans une étable, et puis ensuite, il va de lieu en lieu faisant du bien, avec ces hommes qui sont des pêcheurs, qui n'ont pas beaucoup d'éducation, puis qui aiment l'argent comme un Judas. Et puis, il doit supporter tout cela. Et il sait tous deux. Et il les aime quand même. Et bien voilà, il les a supportés avec amour. Donc, si vous voulez avoir la clé de tous ces versets, pensez à qui? À Jésus. Christ, le Christ, est la révélation, vraiment, de toute l'Écriture. Et puis, si nous marchons d'une manière digne du Seigneur, nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous avons vu ce que Dieu a fait pour que nous soyons un, ce que le Christ a accepté pour qu'il n'y ait plus deux peuples, mais un seul peuple qui forme le corps de Christ. Il a subi la croix, il a subi la mort. C'est ainsi que nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Ça a coûté quelque chose, cette unité. Alors, si vous savez ce que l'unité a coûté au Seigneur, vous allez garder cette unité. L'unité, elle n'est pas à faire. Elle est faite. Qui est-ce qui l'a fait? C'est le Seigneur. Jésus a fait l'unité. Cette unité vraiment organique. Mes membres du corps n'ont pas à se mettre ensemble. Ils sont déjà liés. Ils sont déjà unis. Mais maintenant, il faut que ma tête puisse diriger mes membres. Sinon, alors, j'aurai la danse de Saint-Guy. Hein. Je serai comme un pantin. Mais si ma tête dirige tous mes membres, eh bien, une unité sera manifestée. Mais nous avons besoin des uns. Vous êtes les membres du corps de Christ. Alors, l'unité entre les enfants de Dieu, elle n'est pas à créer, elle est à manifester, elle est à garder. Et comment est-ce qu'on peut garder l'unité sur les choses qui sont essentielles? Bien, par le lien de la paix. Voilà que vous retrouvez la paix. Et dans, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le chapitre 2 aussi, c'était cette paix, Christ est notre paix, et maintenant nous sommes liés. Ce qui nous lie les uns aux autres, c'est cette paix du Christ. La paix. Et nous voulons garder la paix. Alors ne nous laissons pas détruire. Puis vous avez cette vérité fondamentale et qui nous montre sur quoi repose l'unité des chrétiens. Et qui n'est pas à faire, mais qui est à manifester. Il y a un seul corps. C'est vrai. Est-ce qu'il y a plusieurs corps de Christ? Non. Ce serait monstrueux. Hein? Il y a un seul corps. Il y a une seule tête, mais il y a aussi un seul corps. Il y a un seul corps. Souvenez-vous toujours de cela. Et il y a un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits. Hein? Il y a un seul esprit qui anime le corps. C'est la deuxième vérité. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Est-ce qu'il y a une espérance pour les catholiques, une espérance pour les protestants, une espérance pour les orthodoxes, une espérance pour les anglicans, une espérance pour les évangéliques? Il y a une seule espérance. Et quelle est cette espérance? Eh bien, c'est celle dont vous a parlé l'apôtre Paul, qui disait qu'il priait pour que vous puissiez saisir l'espérance qui vous est proposé. Et qu'est-ce que c'est notre espérance? C'est de jouir un jour de la béatitude éternelle. D'être avec le Seigneur. Le Christ est mon espérance. Mon espérance, c'est pas quelque chose. C'est pas même le ciel. Mon espérance, c'est Jésus. Christ est mon espérance. Et cette espérance ne me rendra point honteux. Nous sommes appelés à une seule espérance par notre vocation. La vocation que nous avons reçue nous donne une espérance. Et puis, ensuite, quatrièmement, il y a un seul Seigneur. Est-ce qu'il y a un Seigneur pour les uns et un Seigneur pour les autres? Non. Il y a un seul Seigneur. Et ça, vous devez vous en souvenir. S'il est mon Seigneur, il doit aussi devenir votre Seigneur. Mais est-ce qu'il est mon Seigneur? Oh, je l'ai peut-être accepté comme sauveur. Ça, on s'arrange toujours. Hein. C'est pas mauvais d'avoir un sauveur. Mais si j'ai mon sauveur, si j'ai en Jésus le sauveur, ça veut dire qu'il m'a racheté. Alors, s'il m'a racheté, je lui appartiens. Et si je lui appartiens, il devient mon Seigneur. Alors, est-ce que vous avez accepté la Seigneurie de Christ dans vos vies? Si vous l'avez accepté, c'est déjà une unité. Hein. Quand on accepte la Seigneurie de Christ, on se sent proche les uns des autres. Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Il n'y a pas une foi catholique, une foi orthodoxe, une foi protestante. Quand nous revenons aux vérités essentielles du christianisme, eh bien on voit qu'il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'une seule foi à travers les âges. Et vous savez, il est bon de rencontrer des gens qui partagent cette foi, quand tout est centré sur Christ, quand nous revenons au Christ. Et c'est ce que j'avais beaucoup espéré en pensant à Vatican II, qui était quand même, selon Jean 23, un retour à ces vérités essentielles, pour que vraiment le Saint-Esprit unisse ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Mais déjà maintenant, eh bien, on s'éloigne de tout cela. Mais nous voulons garder ce qui est essentiel et nous réjouir avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Qui sont nos frères? Qui sont nos frères? Qui sont nos sœurs? Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Et alors, vous me direz, mais alors comment avoir un cœur pur? Bien, un cœur pur, eh bien, c'est quelqu'un qui s'est soumis à la vérité, à l'obéissance, qui obéit à la vérité. C'est cela, le cœur vraiment pur. C'est un cœur qui se soumet à l'autorité du Seigneur. Alors, au lieu de dire, mais vous, est-ce que vous vous soumettez à l'autorité du Seigneur? Je dirais, est-ce que je me soumets à l'autorité du Seigneur? Je n'ai pas à juger les autres. Mais je trouve des frères et des sœurs chez ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Puis, alors, il y a une seule foi, donc les vérités essentielles du christianisme, c'est la même foi, et il y a un seul baptême. Là, il faut faire aussi attention. Il n'y a pas un baptême qui serait un baptême catholique, puis après un baptême protestant, puis on se ferait rebaptiser à l'infini, etc. Non, le sens profond du baptême, et les théologiens qui étudient cette question arrivent à la même conclusion. Au fond, qu'est-ce que le baptême? C'est pas l'effacement de la tâche originelle, même les théologiens catholiques le reconnaissent. Le baptême, c'est notre identification au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Il y a un seul baptême. Maintenant, le temps du baptême, c'est une autre question. Pour différentes raisons, au cours des âges, on s'est mis, alors qu'au début, dans l'Église primitive, on baptisait des croyants, hein, des gens qui s'étaient convertis, on s'est mis ensuite à baptiser des enfants, quand, spécialement après la conversion de Constantin, il a imposé le christianisme dans ses états, et le signe du christianisme étant le baptême, on s'est mis à baptiser les enfants, et ça a été la grande confusion. Alors tout le monde est baptisé, soi-disant, et puis comme c'était très difficile, eh bien on a commencé à asperger. Tandis qu'au début, les baptistères, et ce qu'on appelait les fonts baptismaux, et vous pouvez voir cela dans les grandes églises, eh bien il y avait une source, et puis le baptême était par immersion. C'était vraiment un ensevelissement. Baptisé veut dire immergé. On manifestait qu'on renonçait à notre vie passée, que comme Christ était mort, on était identifié à lui dans sa mort, mais comme Christ était ressuscité, on sortait de l'eau, image d'une vie nouvelle qui commençait. Alors, comprenons bien le sens profond du baptême. Et puis, il y a un seul Dieu et Père de tous. Le Créateur, c'est lui qui, dans ce sens général, est le Père de tous les hommes. Et il est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Et vous savez, bien souvent, on l'oublie. Le pauvre Abraham, quand il a été chez Abimélec, il a oublié que Dieu était le Père de tous. Hein. Et il a dit à sa femme, écoute, tu es belle, je sais que tu es belle, et j'ai peur qu'on me tue pour t'avoir. Parce qu'il croyait qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu dans ce pays-là. Lui, c'est ce qu'il pensait. Il pensait qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu. Parce que quand Abimélec est visité de nuit par le Seigneur, qu'il a empêché de coucher avec la femme d'Abraham, et que Dieu dit à Abimélec, si tu touches à cette femme, tu es un homme mort. Alors, Abimélec dit à Dieu dans son songe, c'est pourtant un païen. Hein. Il lui dit, mais j'ai fait ça dans la droiture de mon cœur. Il m'a dit qu'elle était sa sœur. Hein? Alors, et Dieu lui dit, oui, je sais. Tu as fait cela dans la droiture de ton cœur. C'est pourquoi je t'ai empêché de coucher avec elle. On en est compte? Un Dieu qui empêche de coucher avec quelqu'un? Un Dieu qui nous empêche de pécher? C'est quand même merveilleux. Un Dieu qui empêche un païen de pécher. Voilà comme Dieu aime les païens. Est-ce que vous les aimez comme ça? Et est-ce que vous vous réjouiriez de savoir ça? Voyez-vous que mon cœur s'élargit dans l'amour de Dieu. Il est le Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Quand des musulmans viennent et nous disent, est-ce qu'il y a des promesses dans l'Écriture pour nous? Vous en connaissez? Ah oui. Il faut pouvoir leur donner aussi une espérance que Dieu aime aussi les musulmans et qu'il peut convertir aussi les musulmans. Il y a en France maintenant des assemblées entières composées de musulmans qui se sont donnés au Seigneur. C'est quand même formidable. Avant, quand j'allais en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc, on avait beaucoup de peine à atteindre les musulmans sur place. Hein. Mais maintenant, c'est eux qui sont venus en France, qui sont venus dans nos pays. Et alors, puisqu'ils sont là, ils sont à notre contact. Et peut-être que nous avons un témoignage. Pas peut-être. Nous avons certainement le témoignage à leur apporter, mais alors ne leur parlons pas de croisade. Parce que si nous continuons de prétendre que nous faisons des croisades pour Jésus-Christ, ça les heurte. Parce que les croisades, qu'est-ce que c'était? Au fond, c'était les chrétiens qui massacraient qui? Les musulmans. Hein? Puis on dit croisade, croisade. Il y a 40 ans que je dis cela, mais les gens n'écoutent pas. Que si nous voulons un jour atteindre les musulmans, il ne faut pas parler de croisade. C'est comme si vous voulez atteindre les juifs, vous allez dire holocauste évangéliste. Hein? Alors, vraiment, hein? Vous serez en plein dans le mille. Mais nous n'avons pas de bon sens. Nous avons perdu la boule. Et j'ai les pieds sur la terre, vous voyez les choses. Essayez de vous mettre dans la peau d'un musulman. Qu'est-ce que ça lui rappelle les croisades? Ça lui rappelle le massacre que faisaient les chrétiens des musulmans pour avoir quoi? Un tombeau vide. Hein? Pour avoir le tombeau du Christ. On allait jusqu'à Jérusalem. Et puis on les tuait avec une grande croix sur la poitrine. C'est beau. Alors vous comprenez que nous sommes handicapés pour évangéliser les musulmans. Comme nous sommes handicapés aussi pour évangéliser les juifs, parce qu'on a fait l'inquisition, on brûlait les juifs, c'était le peuple déicide. On voulait sauver leur âme en brûlant leur corps, c'est bon. Vous savez, on est drôlement handicapés, nous les chrétiens. Nous avons commis des iniquités. Et l'Holocauste, c'est pas si vieux. C'était dans les années 39 à 45. Et qui faisait cela? Des baptisés, catholiques ou protestants. Eichmann était protestant, Hitler était catholique. Hein. Mais pour les juifs, c'était des chrétiens. Comprenez-vous? Donc c'est pas d'être baptisé qui fait qu'on est chrétien. C'est de vivre la vie de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'aurait pas fait ces iniquités-là. Alors, souvenons-nous que Dieu est au-dessus de tous et qu'il aime tous les hommes et que son salut sera aussi pour tous les hommes. Voilà ce qui doit nous guider. Mais ensuite, vous avez les versets 7 et suivants où nous voyons les dons de Christ ressuscité, et les buts, chacun de nous, dans le corps de Christ, hein, nous faisons tous partie du corps de Christ, si nous croyons, mais chacun de nous, individuellement, nous avons reçu une grâce. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, ce que vous devez bien comprendre, c'est que vous avez reçu un don, mais il faut que vous connaissiez votre don. Et que vous ne dépassiez pas votre mesure. Il y a trop de chrétiens qui dépassent leur mesure. Il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, mais Dieu ne les demande pas. Mais il vous les demande, c'est à vous, parce qu'il vous a donné à vous la capacité de faire ça. Mais moi, si je veux faire ce qu'un autre fait, parce que je veux imiter, tiens, c'est bien ce qu'il fait, mais moi, je vais faire la même chose. Il ne m'a pas donné cette mesure. Si je dis, moi, je m'en vais créer un orphelinat, enfin, les orphelinats, maintenant, ça n'a plus beaucoup de valeur, puisque c'est l'État qui gère. Mais autrefois, il y a eu des hommes de Dieu qui ont reçu cet appel d'ouvrir un orphelinat. Par exemple, je pense à George Muller, en Angleterre. Hein. Mais il avait la foi pour ça. Il n'a jamais fait un appel d'argent. Il a toujours reçu ce qui était nécessaire pour les enfants. Quel était son secret? La prière. Mais quelle prière? Sonnait le clairon? Non. Il s'enfermait dans sa chambre et il en parlait à son Dieu. Et quand on en parle à notre Dieu, qui voit dans le secret, qui connaît dans le secret, il y a des réponses. Mais alors, si je dis, mais Georges Muller, mais c'est une chose merveilleuse ce qu'il a fait, mais moi je veux le faire. Hein, parce que j'aime aussi les orphelins, etc. Mais si je n'ai pas reçu l'appel, ce sera une fatigue. Comprenez-vous? Il faut savoir ce que Dieu nous demande. Et ce qu'il nous ordonne, le Seigneur le donne. Souvenez-vous bien de cela. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et alors, il faut connaître notre mesure. Et il est dit, c'est pourquoi, il est dit, étant monté dans les hauteurs, c'est un psaume qui est cité, le psaume 68, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. De qui est-il question? De Jésus. Hein? Il est monté et après son ascension, qu'est-ce qu'il a envoyé? Le Saint-Esprit. Il a fait des dons aux hommes. Mais, en montant, il est dit qu'il était descendu et qu'il avait emmené des captifs. Là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce serait assez passionnant de commenter ce passage. Nous pensons, d'après d'autres textes de l'Écriture, que quand le Seigneur est mort, il est entré dans le séjour des morts, où étaient retenus les morts, et tous les morts de l'Ancien Testament qui étaient morts dans la foi, il les a sortis de ce séjour des morts pour les prendre avec lui en attendant leur résurrection. De sorte que nous ne descendons plus simplement dans le séjour des morts, mais ceux qui sont en Christ depuis sa victoire sur la mort, il a emmené déjà les croyants auprès de lui. Et c'est cela dans le paradis, hein, avec le brigand, dans le paradis. De sorte que quand nous mourrons dans la foi, nous allons auprès du Seigneur. Nous allons auprès du Seigneur. Il a emmené des captifs, heureux captifs. il les a délivrés du séjour des morts et il les a emmenés auprès de lui. De sorte que l'apôtre Paul, quand il parle de la mort, il ne dit pas qu'il va descendre dans le séjour des morts. Il dit, pour moi vivre, c'est le Christ. Et mourir, c'est un gain. Car être auprès de Christ, cela est de beaucoup meilleur. La mort a perdu vraiment sa puissance. Et nous savons que le Seigneur, ensuite, à son retour en gloire, va les ressusciter. Ils retrouveront tous ces morts qui sont déjà auprès de lui, mais dans le repos, ils retrouveront un corps. Parce que le Seigneur est mort aussi pour que nous ayons un corps de gloire. Et alors, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et puis, en attendant son retour, pour édifier son église, pour édifier son corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des dons aux hommes. Ce n'est pas simplement des dons du Saint-Esprit, mais c'est des ministères. Il a donné des hommes pour son Église. Et, voyez-vous, on n'apprend pas simplement à être apôtre, ou à être prophète, ou à être évangéliste dans des écoles bibliques, ou pasteur ou docteur. Ces hommes, ces ministères, c'est Dieu qui les a donnés. Et, au fond, quelqu'un qui vous enseigne, vous devez, non pas le jalouser, mais vous devez dire, c'est un don que Dieu me fait. Vous êtes des dons pour moi, à la mesure où Dieu vous a fait un don, hein, vous m'appartenez, parce que vous êtes membre du corps de Christ. Et je me réjouis des dons que vous avez reçus, parce que j'en bénéficie. Et puis, si vous trouvez quelques dons en moi, je suis un don pour vous. Nous sommes des dons les uns pour les autres. Alors pourquoi est-ce que nous nous bagarrons, hein? Parce que nous manquons d'humilité. Parce que quand on est des dons, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Alors, nos ministères ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ont été donnés comme apôtres, ceux qui avaient connu le Seigneur depuis le baptême de Jean jusqu'à son élévation dans la gloire. Puis, les prophètes, ce n'est pas des gens qui disent simplement l'avenir, mais c'est des gens qui reçoivent une parole qui vient du cœur de Dieu et qui la transmettent au cœur des hommes. C'est ça le prophète. C'est la bouche de Dieu. Il parle par inspiration. Et un message prophétique, on le reconnaît à trois choses. C'est un message qui édifie, c'est un message qui exhorte et c'est un message qui console. Dans un vrai message qui vient du Seigneur, vous devez trouver une parole qui vous édifie, c'est-à-dire qui vous construit, non pas qui vous démolit, mais qui vous bâtit. Il vous édifie, ça vous fait du bien. Mais aussi, comme on n'est pas parfait, ça doit aussi nous exhorter. Vous dire, c'est vrai, ça me reprend sur un point, sur un autre. C'est un message qui m'exhorte. Je me sens touché. Je ne dis pas, oh, c'est bon pour l'autre, c'est bon pour moi. Attention. Et puis, c'est un message qui console. Parce que nous sommes dans un monde de souffrance, dans un monde de larmes. Nous avons besoin de la consolation de Dieu. Et un homme qui vit dans la dépendance de Dieu, eh bien, il pourra apporter un message qui sera une vraie consolation. Pas les consolations des amis de Job, hein, qui sont des consolations fâcheuses, mais des vraies consolations. Parce que nous sommes les enfants du Père de toute consolation. Ben, si nous sommes les enfants du Dieu de toute consolation, nous devrions avoir des paroles de consolation. Les autres sont comme évangélistes. Ce sont eux qui sont sur la première ligne et qui ont le contact peut-être avec les âmes du dehors et qui les évangélisent. Et puis, ensuite, ceux qui ont été évangélisés, qui ont été contactés, eh bien, ils sont réunis et alors, ils doivent connaître des pasteurs. Qu'est-ce que veut dire pasteur? Des bergers qui s'occupent de ces âmes, qui s'occupent d'un troupeau, et puis ils doivent être aussi enseignés dans une saine doctrine, alors il y aura des docteurs. Mais ils sont signalés en dernier lieu. Et puis Jacques nous dit qu'il n'y a pas beaucoup, parmi vous, beaucoup de docteur, parce que plus il y a de docteurs, plus il y a de disputes. Quand on se croit docteur, faisons bien attention. Et comprenons que ces dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est donc l'Église, mais chaque membre doit pouvoir se développer. Alors Dieu a pourvu au développement des membres de l'Église par ses ministères jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quelle unité ? L'unité de la foi. C'est ça qui nous manque encore. Hein. Sur des points ou sur des autres, nous n'avons pas la même connaissance des choses de Dieu. Et alors, nous avons peut-être encore des divergences, des différences. Mais nous devons travailler à cette unité de la foi. Nous devons avoir en vue l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, arriver à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est cela le but de l'édification. Pourquoi on se réunit pour faire des études bibliques ? Eh bien, c'est pour grandir dans cette connaissance de la foi. C'est pour arriver à ce que la version français courant dit, à l'âge adulte. Parce que quand on se convertit, on est des petits bébés. On est des bébés en Christ. Il y en a qui restent tout le temps des bébés. Il faut toujours leur donner du lait. Alors qu'un jour, ils devraient pouvoir manger aussi de la viande, une nourriture solide. Parce que nous devons croître jusqu'à la pleine stature de Christ. Alors, verset 14, la conséquence, quand nous laissons instruire, ainsi nous ne serons plus des enfants, des petits-enfants, hein, flottant et emporté à tout vent de doctrine. Il y a une doctrine qui passe, alors voilà, on est troublé par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Et vous savez, il y en a. Hein. Dans le monde religieux aujourd'hui, il y en a qui emploient toute espèce de ruses, de moyens de séduction, et qui troublent les âmes. Mais en professant la vérité dans l'amour, cette vérité qui est en Jésus, et que nous devons alors manifester dans l'amour, alors nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Qu'est-ce qui est devant nos yeux ? C'est le Christ, notre modèle. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Là, il y aurait à méditer profondément, selon la force qui convient à chacune de ses parties. Dieu ne demande pas à une seule main de faire tout le travail, puisque j'en ai deux, nous emploierons nos deux mains. Comprenez ? Nous avons besoin les uns des autres. Ne vous isolez pas, ne croyez pas que vous pouvez tout faire. Ou alors, si vous êtes pasteur d'une communauté, eh bien, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de communautés où on voit une grosse tête, un tout petit corps. Hein. C'est un peu grotesque, parce qu'il y en a un homme qui fait tout. Alors, il y a des grosses têtes, et puis des petites jambes. Des embêtes. Ça marche drôlement dans cette vie. Mais il y a une grosse tête. On n'a pas de pape, mais on a des soupapes. Il faut faire attention. Attention, mes amis. Alors, toutes les parties doivent s'édifier dans l'amour. Vous voyez, ça revient toujours, ce mot, dans l'amour. Alors, la marche maintenant du croyant, homme nouveau en Christ, verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est pas Paul qui parle, mais c'est le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Bon, c'est clair, hein, maintenant. Vous savez comment les païens marchaient. Ils marchaient selon la vanité de leurs pensées. Leur intelligence était obscurcie. Ils n'avaient pas la révélation. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Et il y a deux causes. Il y a l'ignorance d'une part, mais quand on commence à leur parler, peut-être, il y a aussi un endurcissement. On ne veut pas. Il n'y a pas seulement l'ignorance. Mais quand on résiste à la vérité, il y a un endurcissement qui se fait, l'endurcissement du cœur. Et alors, ce que nous voyons dans le monde, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est donc l'amour de l'argent. Il n'y a plus que ça qui compte. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Quelqu'un qui veut venir au Canada, on l'a entendu encore en Égypte, c'est pour gagner de l'argent. Parce qu'on croit qu'au Canada, on ramasse les dollars par terre, là, comme ça. Enfin, ils veulent venir au Canada, mais parce qu'au Canada, on gagne beaucoup d'argent. Vous savez ce qu'on peut gagner? Et ceux qui doivent le gagner, ben, ils doivent travailler. À moins d'être sur le bien-être social. Et de s'y mettre tout de suite. Mais voilà, l'amour a quelque chose à nous dire de ce côté-là. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Hein. Qui est-ce qui est notre modèle? Qui est-ce qui est notre conducteur? Qui est-ce qui nous enseigne? Pas les hommes, c'est le Christ. Et j'apprends du Christ. J'aime beaucoup cette expression. Apprendre le Christ. Apprendre sa vie. Si du moins vous l'avez entendu, alors il faut l'avoir entendu, et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus. La vérité, elle est en qui? Elle est en Jésus. Elle n'est pas dans votre église à vous seulement. Hein. La vérité, elle est en Jésus. Et c'est à Jésus que je dois d'abord regarder avant tout. La vérité est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller de cette ancienne manière de vivre que nous avions avant notre conversion par rapport à votre vie passée. On a eu une vie passée. Qu'est-ce que c'était votre vie passée? J'ai pas besoin de la connaître. Le Seigneur la connaît, mais vous l'avez confessé. Votre vie passée, elle est ensevelie dans la mort du Christ. Et ce vieil homme qui était votre manière de vivre dans le passé, eh bien, vous savez qu'il ne peut pas s'améliorer. Hein. Ce vieil homme, toujours quand il est parlé du vieil homme, je ne peux pas entrer dans le détail ici, eh bien, c'est notre ancienne manière de vivre. Elle a pris fin à la croix. C'était le produit de la chair et du péché. Cela, ça faisait le vieil homme. Mais maintenant, le produit de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, ça crée le nouvel homme. Nous sommes nés de nouveau et nous avons une vie nouvelle qui est celle de Christ. Alors, ce que nous avons à revêtir, c'est l'homme nouveau. Qui est l'homme nouveau? C'est le Christ. Nous sommes maintenant dans le Christ. Le Christ habite en nous et c'est en lui que nous devons marcher. Nous avons à nous revêtir de l'homme nouveau qui est créé selon Dieu, c'est pas moi qui le crée, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mais la vérité qui n'est pas une formule, mais qui est vraiment une personne. La vérité, c'est Jésus. Et c'est lui qui produit en nous la justice et la sainteté. Laissons-le produire cela. C'est Jésus. Verset 25. C'est pourquoi, alors maintenant, il y a des choses auxquelles nous devons renoncer si nous sommes chrétiens. Parce que nous avons une vie nouvelle. Est-ce que vous voyez Jésus mentir? Il vous a appris à mentir? Non. Hein? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est Satan, c'est Jésus qui l'a dit. Hein? C'est lui le père du mensonge. Alors, il est impossible qu'un chrétien veuille continuer à mentir ou sentir, disons, des mensonges. Vous ne pourrez jamais vous en tirer en mentant. Tôt ou tard, votre premier mensonge vous obligera à en dire un second. Hein? Et c'est toute une scène. Et alors, vous n'êtes pas dans le Seigneur. Vous devez renoncer. C'était peut-être ma nature. J'étais menteur par nature, c'est vrai. Hein? Mais je suis mort. Vous êtes mort au mensonge. L'amour, il ne ment point. Si vous êtes dans l'amour de Jésus, vous ne mentirez pas. Vous direz la vérité. Vous avez renoncé au mensonge. Il y a des choses auxquelles vous devez renoncer. Justement parce que vous connaissez l'amour du Seigneur. Renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle la vérité à son prochain. Ça coûte quelquefois hein, de dire la vérité à son prochain. Mais nous sommes de la vérité, nous sommes dans la vérité, et nous voulons dire la vérité. Mais cette vérité, il nous faut la dire dans l'amour. Hein. Nous devons dire la vérité à notre prochain, mais nous devons la dire toujours dans l'amour. N'oublions pas cela. Car nous sommes membres les uns des autres. Il faut bien comprendre que nous sommes membres des uns des autres, et que si un membre souffre, tous les autres peuvent souffrir. Hein. Si vous vous mettez en colère, évidemment, on est dans notre nature encore, on est encore sur la terre, puis il y a des choses qui pourraient peut-être nous irriter, mais alors ne péchez point, sachez vous arrêter, dites au Seigneur, mais c'est pas possible, hein? Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ou ne soyez pas en colère toute la journée, parce qu'alors vous êtes détestable, et on ne voit rien de triste en vous. Et vous me direz, mais moi, mes colères, c'est que des saintes colères. Vous les connaissez, les saintes colères? Il n'y en a pas eu beaucoup. Nos saintes colères, on justifie toujours les saintes colères. La vraie colère, c'est la réaction du bien vis-à-vis du mal. Là, on dit non. On n'admet pas. On hait le mal. Mais, nous ne voulons pas donner accès au diable. Moi, je peux être né avec un tempérament colérique, mais si je laisse aller mon tempérament, le diable s'en saisira, puis je lui donne une occasion. Tandis que Jésus disait, le diable n'a rien en moi, le prince de ce monde n'a rien en moi. Mais si je cultive la colère, au lieu de dire non, c'est pas possible, Seigneur, j'étais colérique, j'étais menteur, mais maintenant, c'est des choses qui sont finies. Le vieil homme est mort, c'était les habits du vieil homme, tout ça. Je ne voulais pas mettre ces habits, ces habitudes que j'avais sur le nouvel homme. Le Christ ne ment pas. Le Christ est doux et humble. Alors on ne va pas donner accès au diable. Que celui qui dérobait. Est-ce qu'un chrétien veut encore dérober? Oh, vous me direz, mais moi je suis ni kleptomane. Alors quand je m'en vais dans les magasins, je rabasse comme ça. Mais je suis chrétien, mais je suis sauvé. Mais je ne m'achète jamais de robe. C'est étrange. Le Seigneur m'aide. Vous mêlez le Seigneur à cela. Alors, faites attention. Alors, que celui qui dérobait, ben, l'amour, il ne dérobe pas, ne dérobe plus. Mais alors, si je ne veux pas dérober, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais m'acheter la robe, alors il faudra que je travaille. Bien oui, ben, c'est peut-être ça. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Et puis travailler non seulement pour avoir de quoi payer ce dont on a besoin, mais pour pouvoir faire du bien. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Voilà ce que c'est l'amour. L'amour, il n'est pas paresseux. Il y a des choses que l'amour ne fait pas. Il ne ment pas, hein. Il ne vole pas, et puis il n'est pas paresseux. Mais il travaille, parce qu'il veut être à la charge de personne, le plus possible, et puis il voudrait pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Voilà encore des choses qui doivent changer. Parce que bien souvent, nous nous laissons aller à dire des choses qui sont mauvaises, qui n'édifient pas. Mais s'il y a lieu, qu'il puisse sortir de notre bouche quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Eh bien, je demande au Seigneur qu'il vous donne et qu'il me donne aussi de pouvoir avoir des paroles qui communiquent la grâce. Puis, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une réalité, il est en vous, et si vous faites quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur, comme l'Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tristesse. Et vous savez, quand le Saint-Esprit est en nous, eh bien, il est sensible, c'est une personne sensible. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé. Hein. Vous avez la marque, vous êtes marqué pour le jour de la rédemption, pour le jour où vous aurez la possession pleine et entière de votre salut. Eh bien, ne l'attristez pas, parce que ce qui ruine nos églises, c'est que nous attristons le Saint-Esprit, nous tolérons une foule de choses dont nous devrions nous débarrasser. Et alors, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, au fond, tout ce qui est mauvais, nous y renonçons. Je ne vais pas céder à la méchanceté. Ça doit disparaître. Que ces choses disparaissent du milieu de vous, et alors évidemment l'unité de l'esprit, l'unité du corps sera gardée. Et qu'est-ce que nous devons être? Alors qu'est-ce que l'amour fait? On a vu ce que l'amour ne fait pas, mais ce que l'amour de Dieu fait, eh bien, il nous rend bons les uns envers les autres, plein de compassion, compatissants. Il nous donne de nous pardonner réciproquement, parce que nous avons besoin de nous pardonner. J'ai peut-être besoin de demander pardon à ma femme, parce que je me suis laissé aller à dire une parole qui a pu la blesser. Il faut que je sois sensible, et le Saint-Esprit me le montre. Puis peut-être aussi à nos enfants, nous sommes allés trop loin, nous nous sommes emportés. Au lieu de prendre un peu de temps pour leur parler, c'était plus vite fait de leur envoyer une calotte. Et puis c'était pas très juste. Alors pourquoi ne pas se laisser reprendre par le Seigneur? Et comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà, mes amis, nous avons vu un peu ce chapitre 4. Demain, si Dieu nous permet d'être encore ce monde, nous envisagerons le chapitre 5 demain matin et nous finirons avec le chapitre 6 l'après-midi avant le culte. Dieu de toute grâce, Dieu de bonté et de vérité, nous voulons vraiment te demander ce soir que ta parole nous exhorte encore durant l'éveil de cette nuit, que nous ayons affaire avec toi dans un tête-à-tête et que nous puissions te dire peut-être ce qui ne va pas, ce que nous avons découvert, que nous puissions te confesser. Et tu nous dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et nous voudrions partir de ce lieu en étant vraiment pardonnés. Et puis, si ce ne sont pas des péchés, c'est peut-être des soucis que nous avons. Et tu veux aussi que nous débarrassions de nos soucis. Et nous voulons les confesser comme étant des péchés, parce que tu nous dis, ne vous inquiétez de rien. Et si nous nous inquiétons, mais nous péchons, nous ne faisons pas confiance, alors donne-nous aussi de savoir te remettre nos soucis comme des péchés, afin que nous soyons plus légers, plus libres pour parcourir la cour.